Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 16 juin 2014, chez Robin Dorsil et Nathalie Barge, en votre compagnie. Au sommaire ce soir, République centrafricaine vers un dialogue entre les ex-Seleka et anti-Balaka.
Renforcement de la sécurité au Kenya après une attaque meurtrière revendiquée par les Shabab somaliens.
La Russie suspend l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine, une mesure sévèrement critiquée à Kiev.
En Irak, la progression des djihadistes continue.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, le Nigeria affronte l'Iran, tandis que le Ghana ouvre sa campagne face aux États-Unis. Et la musique, bien sûr, en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Sécurité renforcée au Kenya après l'attaque d'hier qui a fait au moins 49 morts, dont au moins un policier et de nombreux blessés dans la ville côtière de Mpeketoni. Les islamistes du groupe somalien Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque. Les précisions de Michel Joseph.
Des hommes armés venus à bord de 20 véhicules ont attaqué hier nuit près de l'archipel touristique de Lamu, alors que les habitants suivaient la retransmission de la Coupe du Monde. Les autorités kényanes précisent que les assaillants visaient uniquement les hommes. Ils ont brûlé une vingtaine de véhicules et des maisons. Le président de la Croix-Rouge kényane, Abbas Goulet, fait état de deux banques, un commissariat de police et un bâtiment public qui ont été incendiés. Un témoin a confié que l'assaut a duré plusieurs heures et que la police a mis du temps à répondre. Le ministre kényan de l'Intérieur, Joseph Lankou, affirme que les forces de sécurité sont à la poursuite des assaillants qui se sont réfugiés dans la forêt de Boni. Dans un communiqué, le groupe somalien Al-Shabaab a revendiqué l'attaque, disant que c'est en réponse à la répression brutale du gouvernement kényan contre les musulmans. Les islamistes somaliens ont appelé les touristes à éviter le Kenya, devenu selon eux une zone de guerre.
En République centrafricaine, le processus de réconciliation entre anti-Balaka et ex-Seleka fait quelques pas en avant. À Bangui, les leaders des deux mouvements armés se sont retrouvés autour d'une table pour parler de la paix. C'était sur l'initiative de l'ONG Paix Réconciliation Tolérance, Pareto. Le point avec Idriss Fall.
C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que les leaders des deux mouvements armés se retrouvent pour parler de la paix. Ce lundi, Abdoulaye Hissein Ramadan, coordinateur politique des ex-Seleka, Mustapha Saboun, secrétaire général, et Eric Massi étaient assis face à face avec Patrice Edouard Ngaïsona, coordinateur des anti-Balaka, Émotion Brice Namsio, porte-parole, et Alfred Legrand Gaïa, le conseiller politique. Benny Diogo Kouyaté de l'ONG Pareto a organisé cette rencontre inédite.
Le moment est très proche pour qu'ils se prononcent. Ils ont à parler entre eux et au peuple centrafricain qui souffre aujourd'hui de leur exaction de part et d'autre. La chose la plus essentielle et plus importante, c'est la reconnaissance de chaque parti de son tort fait à cette paisible population. Et la volonté d'aller au dialogue, mais surtout de demander pardon entre eux et demander pardon au peuple centrafricain victime.
Après plus de 3 heures d'échange, les leaders des deux groupes armés se sont fait des accolades et ont échangé des numéros de téléphone. Ils ont décidé de mettre en place prochainement un comité mixte de réflexion et œuvrer pour la réconciliation dans le pays.
Deux personnes ont été tuées et deux grièvement blessées dimanche dans une attaque à la grenade à Uvira, dans l'est de la RDC. En proie à la violence de groupes armés locaux et étrangers, rapporte l'AFP, citant la société civile. Uvira se situe au sud de Bukavu, la capitale du Sud Kivu.
En guerre civile depuis 6 mois, le Soudan du Sud est menacé par la famine, alerte l'ONU, disant que jusqu'à 50 000 enfants pourraient mourir de malnutrition. Camille Gros-Didier.
En Égypte, le verdict dans le procès des journalistes d'Al Jazeera sera fixé le 23 juin, a annoncé un tribunal. Claire Morin-Gibourg.
Un procureur égyptien avait requis entre 15 et 25 ans de prison contre les 20 accusés, des journalistes et collaborateurs de la chaîne Qatari. 16 Égyptiens sont accusés d'appartenance à une organisation terroriste et les 4 étrangers de diffusion de fausses nouvelles pour soutenir les frères musulmans. 9 sont détenus en Égypte, dont le journaliste australien Peter Grest, et 11 sont jugés par contumace. Certains affirment avoir été torturés en prison. Depuis la chute de Mohamed Morsi, plus de 15 000 personnes ont été emprisonnées et des centaines condamnées à mort ou à la prison à perpétuité. Ces procès massifs et expéditifs ont été condamnés par la communauté internationale.
Le prix Nobel de littérature Elfried Jelinek et le réalisateur Fatih Akin ont apporté leur soutien à quelque 300 Africains sans papier réclamant leur régularisation à Hambourg après une escale sur l'île italienne de Lampedusa. L'Autrichienne ou le réalisateur allemand d'origine turque ont signé une pétition avec d'autres artistes et intellectuels en Allemagne. Ces sans-papiers originaires de l'Afrique subsaharienne travaillaient en Libye avant la chute de Muammar Kadhafi. Expulsés de Libye, ils ont passé 2 ans dans des camps de réfugiés à Lampedusa en Italie. Ils réclament des permis de séjour, mais la ville de Hambourg s'appuie sur des décisions européennes prévoyant que c'est le pays d'entrée de l'UE, en l'occurrence l'Italie, qui doit examiner leur demande d'asile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant gagnent du terrain. Ils ont conquis Tal Afar, une enclave chiite au nord de Bagdad. Des précisions avec Lionel Gaïma.
Les islamistes sont parvenus à prendre le contrôle de Tal Afar dans la province de Ninive. Les forces de sécurité ont dû battre en retraite. Quelques 200 000 personnes ont dû fuir vers les localités voisines. Malgré tout, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Saad Man, a nié toute progression des djihadistes vers Bagdad. Il a assuré que les islamistes ne contrôlent pas un seul maître de Tal Afar et que le gouvernement a même repris l'initiative. Des ambassades occidentales ont commencé à évacuer leur personnel. Un navire de guerre américain avec son bord 550 marines et des hélicoptères est arrivé dans le golfe au cas où l'évacuation de l'ambassade américaine serait nécessaire. Le personnel américain non essentiel a déjà quitté la capitale irakienne.
Les États-Unis n'écartent pas l'éventualité d'une coopération avec l'Iran pour contrer les militants sunnites en Irak. C'est ce qu'a laissé entendre le secrétaire d'État John Kerry ce lundi. Washington et Téhéran n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis plus de 30 ans.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé pour cette semaine un plan de paix détaillé pour la région de l'Est. Il a indiqué que la phase initiale serait un cessez-le-feu avec les séparatistes pro-russes. Également envisagé un amendement constitutionnel pour décentraliser le pouvoir. C'est l'une des principales revendications des militants anti-gouvernementaux dans l'Est de l'Ukraine. Par ailleurs, l'entreprise russe Gazprom a annoncé aujourd'hui l'arrêt de ses livraisons de gaz naturel à l'Ukraine pour défaut de paiement.
Au Pakistan, de nouvelles frappes aériennes dans la région tribale du Waziristan Nord ont tué au moins 27 militants. Le premier ministre Nawaz Sharif a indiqué aujourd'hui dans un discours au Parlement les raisons qui l'ont poussé à abandonner les pourparlers de paix avec les talibans pakistanais et ordonner l'offensive militaire qui a débuté hier dimanche. Il a ajouté qu'il ne permettra pas que le Pakistan devienne un repère de terroristes et qu'il n'y avait d'autre option que de lancer une opération dans le Waziristan Nord.
Au Sri Lanka, 3 musulmans ont été tués et 75 personnes blessées hier soir dans le sud du pays lors d'affrontements avec des bouddhistes. Les violences ont commencé à la suite d'un rassemblement du groupe bouddhiste radical Bodhu Balasena. Selon des témoins, les partisans du groupe ont brûlé plusieurs maisons et attaqué des mosquées. La police a imposé un couvre-feu dans la zone. Le président sri-lankais a promis une enquête et exhorté toutes les parties à la retenue.
La Chine annonce l'exécution ce lundi de 13 personnes accusées de terrorisme et crimes violents dans la province occidentale de Xinjiang. 3 autres viennent d'être condamnées à mort par un tribunal de la région. Voilà pour le journal. Il est 18h40, plutôt 18h39 en temps universel et 14h39 ici à Washington, chez Robin Dorsil et Nathalie Barge. En votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, notre magazine.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant sont arrivés en quelques jours seulement à contrôler des pans entiers du territoire en mettant en déroute l'armée irakienne. Une situation qui rappelle la progression fulgurante des islamistes il y a 2 ans dans le nord du Mali. Idriss Fall a joint Abdourahmane Touré, un habitant de Gao dans le nord du Mali.
Je ne comprends pas les Occidentaux avec tous les services de renseignement qu'ils ont, avec toutes les informations qu'ils ont. Ils attendent à ce que les djihadistes arrivent à contrôler la situation avant d'agir. C'est ce que je ne comprends pas. Ce qui est en train de se passer en Irak n'a trompé personne, que c'est les sunnites qui sont en train de le faire. Et là où ils avancent, là où il y a des populations sunnites, ces populations sunnites se soulèvent avec eux. Elle chasse l'armée. L'armée ne fait rien. C'est ce qui s'est passé chez nous. Je suis vraiment profondément choqué, indigné et contrarié. Et puis, je suis vraiment profondément touché pour le peuple irakien.
Et que pensez-vous du rôle des Américains? C'est eux qui ont fait tomber Saddam Hussein et ont retiré leurs troupes il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Bon, les Américains ont fait tomber Saddam Hussein. En son temps, nous tous au Mali, nous avons... Bon, moi particulièrement, j'ai dit que c'est une bonne chose. Mais comme l'a dit le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed, on a fait tomber Kadhafi. Il faut faire le service après-vente. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser le pays. Les Américains ont fait tomber Saddam Hussein, mais ils n'ont pas résolu les problèmes politiques. Ils n'ont pas résolu les problèmes confessionnels qui existent entre les Irakiens. Et c'est ce qui est en train de surgir. Ce n'est pas un problème militaire, c'est un problème de partage politique du pouvoir. Et ça, les Occidentaux, ils ont la responsabilité de le faire.
C'était un habitant de Gao, au Mali, Abdourahmane Touré.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde, les résultats, les coulisses et les à-côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant 1 mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
En Côte d'Ivoire, un collectif de 29 députés a saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la commission électorale indépendante. Le collectif estime que la loi électorale, récemment votée au Parlement ivoirien, rompt avec le principe de l'égalité de tous devant la loi stipulé par la Constitution. Le député Kramo Kwasi du Parti démocratique de Côte d'Ivoire explique ici les motivations du collectif.
Ce collectif pense que certaines dispositions de cette loi rompent avec le principe de l'égalité de tous devant la loi prônée par la Constitution ivoirienne. En ce sens que la composition de la commission centrale de la Commission électorale indépendante, par exemple, entre autres, voit en son sein un représentant du président de la République, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant du ministre de l'Économie et Finances. Et si nous prenons le cas particulier de la représentation du président de la République, nous analysons que si le président de la République, représenté au sein de la Commission centrale, devait être candidat à l'élection présidentielle, le fait que lui, de façon intuitive personnelle, ait un représentant au sein de cette commission, alors que les autres candidats ne sont pas autorisés à en avoir pour eux à titre personnel, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi s'en trouve rompu.
Le projet de loi est passé comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Apparemment, vous êtes minoritaire au sein de votre parti, le PDCI.
Ah non, on ne peut pas dire comme ça que nous sommes... minoritaire au sein de notre parti ou que nous sommes majoritaires au sein de notre parti. La Constitution prévoit que les députés librement puissent se constituer en collectif de façon à transcender, voire des députés du PDCI-RDA et des députés d'autres groupes parlementaires. Ce sont des députés qui ont décidé d'agir en responsabilité en interrogeant le Conseil constitutionnel sur des dispositions sur lesquelles ils ont voulu voir clair. Je précise que nous ne sommes pas dans une procédure contentieuse vis-à-vis du Conseil constitutionnel, on est en procès vis-à-vis de personne. La requête que nous avons introduite vise à renforcer la crédibilité de la commission électorale indépendante. Nous voulons par cela la débarrasser de toute suspicion qui pourrait donner à ces décisions quelques soucis d'acceptation par la population ivoirienne. Qu'est-ce que nous attendons du Conseil constitutionnel? S'il se trouve que le Conseil analyse que donc la loi a toutes ses dispositions conformes à la Constitution, il l'affirme, le Conseil constitutionnel, de sorte à ce que tous ceux qui, dans leur petit coin, pensaient avoir de quoi dire de cette loi puissent ravaler leur plainte parce que le Conseil constitutionnel aura parlé. Maintenant, si le Conseil trouve aussi que certaines dispositions s'écartent de la Constitution, qu'il ordonne que ces dispositions-là soient mises en conformité avec la loi fondamentale.
Le député ivoirien Kramo Kwasi, joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
En Centrafrique, plus de 13 000 habitants d'une trentaine de villages dans l'Ouest ont reçu ces derniers jours des semences et du matériel agricole du Comité international de la Croix-Rouge. En coopération avec la Croix-Rouge centrafricaine, des précisions avec Camille Gros-Didier.
Au cours des derniers mois, cette région a été le théâtre d'affrontements entre groupes armés. Des milliers de personnes ont dû fuir et à leur retour, ont constaté que leur maison avait été brûlée et qu'elle se retrouvait entièrement démunie. On écoute Jean-François Sangsu, chef de la délégation du CICR en République centrafricaine.
C'est un travail que nous avons effectué conjointement avec nos partenaires de la Croix-Rouge de la République centrafricaine et cela visait à assister des populations qui avaient été effectivement victimes d'affrontements entre groupes armés à la fin de l'année dernière. Leurs champs avaient été brûlés, il y avait eu différentes conséquences avec leurs maisons vandalisées et ils avaient dû fuir en brousse. Nous avons décidé de leur distribuer vivres, à leur permettre effectivement de se réinstaller et surtout de pouvoir à nouveau récolter leurs champs qui avaient été détruits.
Selon la FAO, 95% des communautés affirment qu'elles n'auront pas assez de semences pour la campagne agricole de cette année. C'est donc pour appuyer la relance de la production agricole dans les villages que le CICR a distribué des semences et des outils.
Un travail qui on juge extrêmement important pour permettre à ces populations qui ont été victimes de ces affrontements en fin d'année dernière de pouvoir à nouveau retourner dans leur village et récolter leurs champs. A pour objectif de leur permettre effectivement d'ici 4 à 5 mois de pouvoir récolter le fruit de leur travail maintenant.
Jean-François Sangsu du CICR, au-delà de cette assistance agricole, le CICR, toujours en coopération avec la Croix-Rouge centrafricaine, distribue régulièrement de la nourriture à des milliers de personnes particulièrement vulnérables, appartenant à des communautés déplacées ou revenues chez elles à Bangui et ailleurs dans le pays, comme récemment à Ndélé ou Dekoa.
Le journal de la Coupe du Monde, tous les jours sur nos antennes avec Bagassi Koura, ses invités et notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chirubin, bonsoir à tous. On commence ce journal de sport par le groupe G, où l'Allemagne vient de laminer le Portugal dans un match à sens unique. L'Allemagne a battu le Portugal 4-0, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Déjà à la pause, il faut signaler, la Mannschaft menait 3-0 avec un doublé de Müller et Hummels. Ils ont joué à 11 contre 10 après l'expulsion du Portugais Pepe. Et puis tout à l'heure, donc les deux anglophones du continent qui jouent leur premier match. À 19h, le champion d'Afrique, le Nigeria, affronte l'équipe d'Iran. Et puis à 22h, le Ghana joue contre les États-Unis. Sur ces deux rencontres, joue contre donc les États-Unis. D'abord, on va revenir sur ce match Portugal donc Allemagne avec ce commentaire de notre ami de Luanda, en Angola, qui nous parle donc de ces deux rencontres.
Je pense que si il faudrait être parié à l'entraîneur de Portugal, il faudrait qu'il mise un peu beaucoup plus à le fait de ne pas donner seulement l'espoir à une seule personne, ou à deux, ou alors à l'équipe type, mais il fallait qu'il travaille avec tout le monde. Ronaldo, il ne fallait pas qu'on le remarque trop, puisque d'abord, il a été remarqué depuis avant le match, il a été remarqué depuis avant la Coupe du Monde. Donc, tout le monde se dirait il ne faudrait pas qu'il se fasse remarquer, il ne faudrait pas qu'on parle de Ronaldo, il ne faudrait pas. Et voilà que la mission est atteinte.
Voilà, c'était Fabrice Bassosila qui était à Luanda, en Angola. Et puis ce soir, comme je le disais, les deux anglophones du continent jouent leur premier match à 19h. Donc dans quelques minutes, le champion d'Afrique, le Nigeria, affronte l'équipe d'Iran. Et puis à 22h, le Ghana joue contre les États-Unis. Sur ces deux rencontres, on écoute Valdo Simoyamba. Il est journaliste sportif à TV50 à Kinshasa. Il commence d'abord par le match Nigeria-Iran.
On attend beaucoup du Nigeria qui rencontre l'Iran. L'Iran est peu connu, il n'a que 4 participations à la Coupe du Monde, il n'est vraiment pas assez connu, mais attention, cette Coupe du Monde ne se base pas sur les équipes connues. C'est pratiquement un grand défi également pour ces Super Eagles qui seront entre autres conduits par John Obi Mikel, qui n'est vraiment pas du tout assez convaincant encore en équipe nationale.
Et puis on n'oublie pas le Ghana qui retrouve son adversaire, on peut dire traditionnel, les États-Unis.
Avec ces goûts d'inachevé de la dernière Coupe du Monde, rappelez-vous, les Ghanais, ils ont joué les coups de la malchance face à l'Uruguay avec cette main du diable de Suarez qui leur a empêché bien sûr d'accéder en demi-finale. Mais en face, il y a également la sensation en mettant en dérive l'équipe espagnole. Rappelez-vous, c'était pratiquement une grosse frayeur côté espagnol. Côté ghanéen, ça reste également Jan Asamoah qui doit être des grands jours parce que c'est lui le tueur à froid, c'est lui le capitaine, c'est lui, c'est sur lui qui repose la responsabilité, quoi qu'il a été malchanceux avec ses pénalties ratées face à l'équipe, bien sûr, uruguayenne, le mondial dernier.
Voilà, c'était Valdo Simoyamba, journaliste sportif à TV50 à Kinshasa. Et Chérubin, voici maintenant le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué, notre spécialiste football à Libreville au Gabon. Ce soir, Jules Valentin revient sur la rencontre qui va avoir lieu demain entre l'Algérie et la Belgique. Voilà, on a des difficultés techniques ici. On va d'ici là retrouver Jules Valentin dans son coup de sifflet du jour. Et rappelons que dimanche, la Côte d'Ivoire avait battu 2-1 le Japon. C'est d'abord le Japon qui avait ouvert le score avec un certain Honda. Et la Côte d'Ivoire a pu se rattraper à la partie de la 60e minute avec l'entrée de Didier Drogba. Que cette 60e minute qui, selon beaucoup d'observateurs, a constitué le tournant de ce match Côte d'Ivoire-Japon. Et le Cameroun, qui était le Cameroun donc, qui était le premier représentant africain à entrer en lice, a perdu vendredi face au Mexique 1-0. Et on revient maintenant à Jules Valentin Ngoué et son sifflet du jour.
We celebrate the best African football.
Après leurs cousins francophones vendredi et dimanche, les grands rivaux anglophones de l'Afrique de l'Ouest entrent à leur tour dans la danse ce lundi, dans des matchs aux configurations différentes, voire opposées. Riche de son palmarès récent, de ses productions convaincantes, d'un effectif judicieusement rajeuni et très homogène, ainsi que d'une préparation rationnelle, le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire hier, n'a pas droit à l'erreur face à un adversaire logiquement moins armé et à sa portée. La virtuosité, la puissance et la créativité d'un groupe solidaire capable de hausser son rythme de jeu devraient suffire pour amener à la raison une équipe d'Iran trop proche des équipes nord-africaines qui réussissent très souvent au Nigeria. Avant cette confrontation, le Ghana va affronter les États-Unis dans une opposition de style fort agréable. Les Black Stars, dont nul n'ignore les qualités techniques individuel et collectif, ni l'esprit d'équipe pour un jeu spectaculaire mais efficace, résolument tourné vers l'attaque, ont les moyens de ramener à la raison une équipe des États-Unis aux arguments physiques et au réalisme proverbiaux. Un échec ghanéen serait de mauvais augure avant d'affronter les montagnes allemandes et portugaises. Alors prudence, à demain.
Alors, Chérubin et Nathalie, vous avez certainement entendu ou vu ce match Cameroun-Mexique vendredi dernier où le Cameroun a perdu 1-0. Beaucoup pensent que ça va être vraiment difficile pour la suite de la compétition puisque jeudi prochain, le Cameroun croise la Croatie sans Samuel Eto'o qui a toujours des problèmes au genou.
Et ça va être très difficile pour l'équipe camerounaise.
Ça va être très, très, très difficile. Et bon, on est en football, hein, et impossible n'est pas indomptable.
Oui, et on parle des lions indomptables du Cameroun, mais jusqu'à présent, les lions n'ont pas pu rugir Bagassi.
Mais vous ne faites pas des pronostics, là? Qu'est-ce que vous prévoyez?
Oui, mais justement, on attend votre pronostic, Nathalie.
C'est quel match déjà? Dites-moi.
Le Cameroun et la Croatie.
Le Cameroun et la Croatie. N'y connaissant absolument rien, je dirais, on va dire les 3 pour le Cameroun, la Croatie, 2.
Ouais. D'accord. Ok, donc on va espérer que le Cameroun va gagner.
Apparemment, on a Nicolas Pinault et en direct du Brésil. Allô, Nicolas?
Oui, bonsoir, chérubin.
Oui, bonsoir, Nicolas. Donc, vous êtes sur place, vous venez d'arriver après ce voyage avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelles sont les nouvelles de votre côté?
Eh bien, écoutez, arrivé à Manaus hein, pour le match, c'est évidemment tant attendu des Lions indomptables qui vont affronter la Croatie. Il n'y aura évidemment pas le droit à l'erreur pour les Lions indomptables, avec une incertitude pour Samuel Eto'o, le capitaine qui n'est pas réapparu évidemment depuis la défaite 1-0 face au Mexique. Alors évidemment, tout le monde attend cette équipe du Cameroun et on va voir tout de suite évidemment si ils vont pouvoir relever la tête dans ce groupe A. Une victoire est impérative pour éviter l'élimination, Bagassi.
Oui, et puis Nicolas, est dans 3 minutes, hein, c'est le Nigeria qui entre en lice. Un mot?
Et oui, tout à fait. L'équipe nigériane, championne d'Afrique en titre, qui va affronter l'Iran. Alors, match facile ou match piège pour les coéquipiers d'Obi Mikel? On va le savoir très rapidement. Le match se déroule à Salvador. Il est important pour les Nigérians de pouvoir gagner ce premier match et pour éviter finalement d'avoir à gagner le troisième et dernier match qui sera contre l'Argentine, qui fait un peu figure d'épouvantail dans ce groupe F. Alors, les Nigérians ont une carte à jouer et on n'oubliera pas Bagassi, la prochaine équipe africaine qui va conclure la soirée. Ce sera évidemment le Ghana, les Black Stars qui joueront contre les États-Unis.
Et puis Nicolas, hein, il y a eu ce tremblement de terre, hein, si on peut dire, le Portugal de Cristiano Ronaldo qui s'est fait laminer tout à l'heure par l'Allemagne.
Et oui Bagassi, hein, c'est la 4e fois en compétition internationale que l'Allemagne domine très nettement les Portugais de Cristiano Ronaldo. Vous l'avez dit, hein, les Portugais qui ont été réduits à 10, mais on notera surtout la performance de l'attaquant qui risque bien de terminer parmi les meilleurs buteurs. C'est évidemment Müller qui a inscrit un triplé et l'Allemagne qui d'ores et déjà se pose en favorite comme l'ont été les Pays-Bas avant elle.
Voilà, merci Nicolas. C'était Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à la Coupe du Monde 2014. Nicolas que l'on retrouve dans une dizaine de minutes dans Sporama. C'est tout donc pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde. Au micro Bagassi Koura, merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure.
Merci Bagassi Koura. Et puisque l'on parle de sport, il faut absolument signaler que dans la NBA, la Ligue de basket professionnelle des États-Unis, les San Antonio Spurs sont les nouveaux champions. San Antonio a battu Miami hier soir, gagnant la série des 7 matchs de la finale par 4 victoires contre une défaite.
Let's go to my Zonto party. Come on, I Zonto party. Let's go to my Zonto party. I Zonto party. Let's go to my Zonto party. I Zonto party. I Zonto party. Let's go to my Zonto party. Grab somebody.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. À la technique, c'était Joselle Morissin. Avec vous, donc, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorcy. On s'excuse pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés. Cela peut arriver vraiment, chers auditeurs. Nous sommes désolés en espérant que cela ne se reproduira pas.
Et tout cela en dépit, bien sûr, des efforts louables de notre ami technicien Wagner Robert, à qui nous disons merci. Alors, Nathalie, on se retrouve dans une demi-heure.
C'est ça, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Just follow me, just follow me.